Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces longs épisodes pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité dans le Grand Sud-Ouest. Cette fois, nous avons voulu laisser la parole à Rosane Kevel. Elle est cette jeune femme qui a été licenciée par Chronodrive à Toulouse il y a quelques jours, à la suite d'un tweet. Nous avons voulu l'entendre longuement car elle nous semble être à la croisée de beaucoup de luttes. Celle pour les droits des étudiants, des travailleurs précaires, les droits des femmes aussi. Bonjour Rosane Kevel.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien. Aujourd'hui nous sommes dans votre ville de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes et pourquoi vous avez choisi qu'on se rencontre ici ?
Du coup là on est au parc du Grand Rond, en plein soleil et c'était bien je pense d'être en plein air et de se rencontrer avec un peu de vie autour.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, Rosane ?
Ouais, du coup, moi je m'appelle Rosane, j'ai 19 ans, je suis étudiante au Mirail à Toulouse en première année d'économie-sociologie et à côté, du coup, je travaillais avant à Chronodrive pendant presque un an et je viens d'être licenciée pour faute grave il y a quelques jours.
Vous êtes aussi une jeune femme engagée, à la fois syndicalement et politiquement ?
Ouais, quand je suis arrivée à Chronodrive, je me suis directement syndiquée à la CGT, qui était une section qui venait d'être montée. Et puis à côté, ça fait aussi un peu plus d'un an que je milite activement au sein du NPA Révolution Permanente, mais aussi dans un collectif féministe qui s'appelle Du Pain et des Roses, et dans le collectif étudiant Le Point Levé.
Le NPA qui est le nouveau parti anticapitaliste.
C'est ça.
Avec vous, on va revenir longuement sur votre affaire qui a été beaucoup évoquée dans les médias sous le titre de l'affaire de l'étudiante qui a été virée pour un tweet. On va comprendre ensemble que c'est bien plus compliqué que cela, qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière cela. Mais simplement, juste là-dessus, effectivement, ce qui est beaucoup sorti et ce que Chronodrive vous a reproché, c'est un tweet critiquant leur greenwashing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela avant qu'on revienne en longueur sur l'affaire ?
Oui, bien sûr. En fait, Chronodrive, ils font toujours des pubs sur Internet au travers des réseaux sociaux, comme quoi ils sont jeunes, ils sont cool, ils sont écolos. On dirait limite qu'on a un peu des heures de start-up, alors qu'en vrai, c'est les Muliez, c'est Auchan. Et là, ils ont tweeté pour une énième fois une pub qui, moi, me paraît mensongère, puisqu'en fait, ils disaient qu'ils luttaient contre le gaspillage alimentaire et que notamment, ils se vantaient de mettre des sacs en papier seulement pour les produits bio et que du coup, ça les rendait écolos. Moi, en voyant ça et avec ma semaine de taf dans les jambes, en ayant dû jeter en fait des dizaines de produits, en fait, j'ai retweeté ce tweet-là en disant non, en fait, Chronodrive, vous n'êtes pas du tout écolo. Moi, je suis salarié et que justement, en fait, tous les jours, je dois jeter des dizaines de produits quand je viens travailler, le matin, quand je fais de la réception, etc. Et je disais même que voilà, nous, en tant que étudiants et travailleurs, pour la plupart, hein, à Chronodrive, on est pour la plupart des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de nos études. Et en fait, on doit jeter ces produits-là, on peut même pas les récupérer, même s'ils vont à la poubelle, en fait, on peut pas les récupérer, et sinon on est accusé de vol et on peut être licencié. Donc j'ai retweeté ça, et Chronodrive aujourd'hui donc me reproche ça pour me licencier pour faute grave, alors que même en fait ils ne m'ont jamais demandé de retirer ce tweet-là, alors que pourtant le problème ça serait que, imaginez si nos clients le voient, etc., etc.
Vous avez donc dans un premier temps été mise à pied et depuis vous avez été licenciée tout récemment il y a quelques jours et on va revenir longuement sur tout cela. Tout d'abord, Rosane, vous l'avez dit, vous êtes étudiante en sociologie, en économie sociologique, précisément au Mirail ici à Toulouse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu vous avez grandi, quelles ont été les études que vous avez faites au lycée notamment ?
Du coup, moi, je viens de Nantes et j'ai fait donc toute ma scolarité là-bas jusqu'au lycée, jusqu'en terminale. Où ensuite j'ai voulu m'orienter dans des études de japonais. Et du coup, à Nantes, il n'y avait pas du tout. Et puis, Toulouse, ça me plaisait bien. Donc, je suis descendue dans le sud pour faire ces études-là. Et après, moi, j'ai toujours grandi dans une famille plutôt de gauche. Mon père était syndiqué à la CGT. Donc, j'ai toujours eu cette tradition-là, un peu même d'aller dans les manifestations. Donc, j'avais aussi cette envie, quand je suis arrivée à la fac, de prendre du temps aussi pour militer. Je crois qu'en japonais, j'avais genre 16 heures de cours. Du coup, je voulais aussi m'impliquer à côté. J'avais aussi beaucoup une conscience écologique quand je suis arrivée. Ça fait 5 ans qu'à côté j'ai une alimentation végane, etc. Et j'avais été un peu politisée par tout ce truc justement de l'écologie, les grèves des lycéens justement le vendredi, etc. auxquelles j'avais participé. Et puis là j'avais envie de vraiment de m'organiser et trouver des gens aussi qui me ressemblaient, qui pensaient la même chose que moi, etc. Et du coup donc, je suis arrivée avec un peu cette envie-là. Et donc c'est là aussi où j'ai rencontré mes camarades du Point Levé, du Pain et des Roses et de Révolution Permanente. Et où du coup j'ai commencé à militer. Aujourd'hui je me suis réorientée du coup dans des études d'économie sociologie, mais voilà.
À quel moment vous avez commencé à travailler pour Chronodrive ?
J'ai commencé à travailler juste après le premier confinement, parce que j'en avais besoin financièrement. C'était plus possible pour ma famille de m'aider comme ils pouvaient avant. Et du coup, c'était en fait le seul taf qui prenait vraiment des personnes. En plus, c'était un CDI. On nous vendait en plus que c'était compatible avec nos études, puisqu'en fait, il y a la modulation là-bas. Donc ça veut dire que en fait, si tu as un contrat 12 heures, ils peuvent aussi te faire faire 24 heures pendant la semaine. Mais en fait, tu seras payé comme 12 heures. En fait, on ne connaît pas du tout les heures supplémentaires à Chronodrive. On n'est pas du tout payé en tant que tel. Et du coup, ils te vendent tout le truc de... en même temps, si tu as, par exemple, des partiels une semaine, on va t'abaisser tes heures, puis tu les rattraperas après, etc. Donc, c'est un truc qui me paraissait attractif. Et puis, ils m'ont embauché tout de suite. J'ai eu un retour très rapide. Ils ont embauché plein de monde après le premier confinement. En fait, la fréquentation avait explosé. Moi, quand je suis arrivée, mon directeur de magasin, il m'a dit en un mois de confinement, on a gagné un an de nouveaux clients, en fait. Donc très clairement ils embauchaient, il y avait même des intérimaires et tout. Et donc du coup c'est là où j'ai commencé à travailler à Chronodrive en 12 heures en temps partiel.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Chronodrive ? Vous en avez dit un mot, hein, c'est une filiale d'Auchan, donc propriété de la famille Muliez. Vous pouvez nous expliquer ce que fait Chronodrive, ce que c'est que cette entreprise ?
Ouais, c'est un drive de course en ligne. Et en plus il y a toute une politique autour où en fait par exemple on peut commander sur internet nos propres courses et on peut venir les chercher 30 minutes après. Et donc ça appartient donc à Auchan, au Muliez, et il y en a un peu partout en France. Je crois qu'il y a 64 magasins en France. Donc ça explose en plus de plus en plus là avec tout le Covid et toute la situation sanitaire. Forcément les gens n'ont plus trop envie d'aller dans les grandes surfaces, donc vont dans les drives. Et du coup on est en majorité des étudiants à travailler à Chronodrive. Ce qui fait que par exemple dans des magasins, enfin moi c'est le plus gros magasin de Toulouse, mais on est plus de 150 par exemple. Donc c'est quand même des grosses entreprises qui prennent quand même beaucoup quoi.
Rosane, avant même de parler de vos conditions de travail et de la manière dont se sont passées les choses chez Chronodrive, on va évoquer vos convictions et vos revendications avant même d'entrer chez Chronodrive. Vous estimiez déjà qu'il était anormal pour des étudiants d'avoir à travailler pour payer leurs études. Vous aviez déjà milité contre cela.
Ouais, en fait moi quand je suis arrivée à la fac, il y avait toute l'histoire de l'étudiant à Lyon qui avait fait une tentative de suicide. Et ça m'avait aussi beaucoup impacté parce que justement il dénonçait en fait toute la précarité étudiante, le fait que quand tu étais étudiant en fait tu devais loger dans des logements crous souvent insalubres, que en fait c'était pas un truc rigolo quoi d'être étudiant et de devoir enchaîner les petits boulots. Moi je me souviens j'avais beaucoup cette vision là de me dire voilà enfin indépendante, je vais avoir un petit boulot, etc. Mais en fait c'est pas cool d'enchaîner les doubles journées de taf puis de cours. Et que justement moi j'ai beaucoup été justement impactée quand je suis arrivée à la fac avec toute cette histoire et toute la dénonciation du coup de centres d'étudiants qui disaient bon moi aussi en fait avec 400 euros en fait je peux pas vivre pour le mois, etc. Je finis pas mon mois, je mange que des pâtes, etc., etc. Et du coup ça m'avait beaucoup ouvert les yeux sur tout ça. Et du coup encore plus quand j'ai dû moi-même travailler en même temps que mes études, là ça m'a encore plus ouvert les yeux sur ce que c'était que la précarité étudiante. Et c'est notamment pour ça que voilà moi j'ai voulu justement militer contre ça et dénoncer aussi toute cette précarité avec les manifestations de décembre qu'on avait connues l'année dernière aussi contre la réforme des retraites. Et c'est là où justement j'ai commencé à vouloir vraiment m'organiser contre toute cette pauvreté, etc., etc.
Rosane, à quel moment vous avez commencé à travailler pour Chronodrive ?
J'ai commencé à travailler en fin mai de 2020, donc vraiment après le premier confinement.
Comment ça s'est passé dans les premières semaines ?
Les premières semaines, c'était dur. En plus, on a 2 mois de période d'essai, donc il fallait faire nos preuves, très clairement. Et j'ai découvert tout le climat très oppressant, que ce soit au niveau de la pression. En fait, on a des statistiques. En fait, quand on vient travailler à Chronodrive, on a un petit ordinateur sur le bras qui nous chronomètre. Et on t'explique très clairement quand t'arrives que tu vas avoir des relevés de tes statistiques chaque jour où tu vas venir travailler. Que par exemple, pour faire telle tâche, t'as 30 secondes. Pour faire telle tâche, t'as 15 secondes. Et donc au début, on te donne tout un discours bienveillant de c'est normal, c'est que le début, donc on ne te demandera pas. Mais par contre, très vite, tu t'aperçois qu'au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, on te dit bon, par contre, là maintenant, il faut que tu fasses les statistiques. Va falloir que tu... Et puis en plus, tu es classé entre salariés, tu es dans des tableaux en fait tous les jours. Et puis aussi, il y a toute une ambiance vraiment de concurrence. En fait, même les salariés entre eux, ils vont se dire, ils vont rigoler parce que t'es dernier, ou alors ils vont se féliciter parce que t'es premier ou deuxième ou troisième, etc., etc. Et du coup, donc moi, je suis arrivée déjà dans cette ambiance où tu sentais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Il y a des sonneries aussi qui retentissent dans le magasin, qui te disent combien il y a de clients qui arrivent, combien il te reste de temps. Ça hurle, on demande du renfort un peu partout, etc., etc. Donc vraiment, moi je me souviens, on me disait que le magasin, on l'appelait l'usine, et c'était vraiment l'usine, quoi. Et puis en plus, en tant que femme, moi je suis arrivée directement, et c'est ça en fait, t'as l'impression d'être un bout de viande au sein du magasin, d'être la petite nouvelle sur qui en fait il y a l'attention, etc. Et en plus, je me sentais très seule parce que c'était beaucoup couvert sous la blague, toute cette ambiance-là. Ça se passait sous le nez des directeurs, des responsables, et il n'y avait aucune réaction. Donc tu comprends pas trop et tu vois que c'est beaucoup banalisé. Et donc même moi qui avais voilà, cet engagement féministe, je voyais que ça me dérangeait, mais je comprenais pas que en fait tout le monde banalisait ça. Donc même moi en fait j'avais tendance aussi à me dire bon bah c'est pas grave, etc. De passer sous couvert un peu tout ça quoi. Je suis vraiment arrivée dans cette ambiance avec beaucoup de pression. Beaucoup de turnover aussi, les gens on les croisait, certains finissaient pas la période d'essai et en fait tu connais très peu tes collègues en fait, t'arrives, tu as travaillé pour 3 heures, pour 4 heures, même t'as l'impression d'être un peu tout seul quoi dans le magasin en général.
On va revenir sur ces conditions et en particulier pour ce que vous évoquez dans ce que vous avez subi en tant que femme, puisqu'on sait dans les travaux précaires c'est encore plus difficile pour les femmes. Un mot simplement sur ce que vous évoquiez, vous disiez il y avait des tâches qui nous étaient confiées, qu'on devait faire en 30, en 15 secondes. Mmh. Vous avez quelques exemples justement de tâches qui vous étaient allouées comme ça ?
Ouais, bah en fait quand on vient travailler à ChronoDrive, moi je suis préparatrice de commandes et en fait dans ChronoDrive on a plusieurs secteurs, il y en a 4. Et en fait, quand vous, en tant que client, vous passez une commande à ChronoDrive, votre commande, en fait, elle est divisée du coup dans chaque secteur. Et nous, en tant que préparateur de commande, ce qu'on doit faire, c'est qu'on vient le matin, on prend un chariot, on prend une caisse et on appuie sur commencer la commande, quoi. Et en gros, on fait la commande. Et on la dépose, on dépose la caisse et ensuite on recommence. Et c'est un truc très répétitif, en fait, où on fait que des tours pendant 4 heures en général. Nous, en tant qu'étudiants, en temps partiel, on vient travailler pour 4 heures. Et vraiment, c'est juste, tu prends une caisse, tu la remplis, tu déposes. Et après, du coup, dans tout ça, t'as du coup, bah, vraiment des statistiques à remplir, des objectifs. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on utilise, donc, c'est un petit ordinateur accroché sur le bras. Et on a un petit truc pour scanner, en fait, une petite bague au bout du doigt. Et donc, en fait, à partir du moment où tu commences à scanner le premier article, à le déposer dans ta caisse, t'as 30 secondes, par exemple, maximum, pour aller prendre le deuxième article et le déposer dans ta caisse. Donc, par exemple, des fois, tu vas avoir des commandes où tu vas juste avoir deux produits à prendre qui sont à l'autre bout du magasin. Bah, tu cours. Et puis même, tu dois faire plein de calculs un peu dans ta tête pour essayer de prendre le premier article, mais de ne pas le scanner. Et puis après, marcher jusqu'au deuxième article et la scanner les deux en même temps pour essayer de gagner en statistiques. Enfin, en fait, c'est tout le temps des calculs. Tu essayes tout le temps de prendre des raccourcis. Même en période de rush, enfin, voilà, les salariés, ils se crient dessus parce qu'il y a trop de chariots et du coup, on se bloque, etc. Et en fait, ça nous fait baisser nos statistiques. Et en plus, derrière tout ça, en fait, on a des entretiens, surtout où il y a ce relevé de statistiques-là. Et on te fait en fait un relevé. On te fait aussi un relevé de ton comportement, de comment les autres salariés te voient, de comment est-ce que t'es sympa, est-ce que t'es jovial, est-ce que voilà, même ce que tu penses un peu de l'ambiance du magasin. Et donc on sait surtout que derrière c'est pas juste est-ce qu'on va avoir des mauvais chiffres, mais c'est surtout il va nous dire quoi le supérieur quoi. Donc c'est plus ça. Et en fait il y a vraiment des objectifs à atteindre pour tout. Quand t'as fini ta commande et à partir du moment où t'as entreposé ta commande, t'as pareil je crois quelques secondes encore. Et pareil, entre chaque commande que tu vas prendre, tu as encore une fois des statistiques. Donc vraiment, c'est tout est chronométré en fait. Vraiment, vraiment tout.
Comment on se sent quand on a fait une journée chez ChronoDrive et qu'on rentre chez soi le soir ?
Fatiguée, très fatiguée. Moi, je sais que justement, ce que j'avais fait, c'était que je m'étais mis tous mes cours en fait l'après-midi. Et donc, j'allais le matin à ChronoDrive. Donc déjà, tous les magasins sont très excentrés. Donc en fait, tu mets déjà 30 minutes en bus pour y aller. Et puis, c'est beaucoup de pression. On a le dos qui est cassé, on a les jambes. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des collègues, surtout les 35 heures, nous dire à la fin de la journée, j'ai mes jambes qui tremblent, j'en peux plus. L'été, il fait très chaud. L'hiver, il fait très froid. C'est très, 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 très fatigant. Tu sors de 4 heures, t'as l'impression d'avoir fait une journée de 10 heures, quoi, très clairement. Parce qu'on te demande ça, en fait. On te demande de courir, on te demande de sauter, de grimper. Moi, mon directeur, un responsable de secteur m'avait déjà dit ça. J'étais arrivée une fois, il m'avait dit bon là Rosane c'est le rush, va falloir que tu cours, tu grimpes, tu sautes. Et c'est ça en fait, tu viens pour faire ça pendant 4 heures quoi. Donc c'est. Et minimum tu fais de la marche rapide pendant 4 heures. Donc vraiment tu sors de là, t'es crevé pour tout.
Vous parliez des 35 heures parce qu'il y a les étudiants comme vous, il y a des gens qui font ça pour compléter parfois un revenu, et puis il y a des gens dont c'est le travail principal qui, effectivement, ils sont à plein temps.
C'est ça, et en fait, on n'est que des jeunes à ChronoDrive, vraiment. Et les 35 heures, en fait, en général, c'est soit des personnes qui n'ont pas trouvé de place en master, donc qui se retrouvent à faire une 35 heures pour un an, ou alors qui restent après dans l'entreprise, soit des gens qui ont fini leurs études, mais qui n'ont pas trouvé de boulot. Moi, je me souviens, il y avait des photographes, par exemple, qui avaient fait des études, mais qui n'avaient pas trouvé de boulot. Donc, du coup, ils restaient à ChronoDrive parce que t'as que ça. Et en fait, tu gardes ton boulot étudiant, mais tu le transformes en boulot 35 heures parce que t'as que ça. Surtout là, dans une période de crise économique, les restos ne prennent plus, les bars ne prennent plus. Enfin, il y a très peu de monde qui prend. Et du coup, ChronoDrive, lui, justement, augmente encore plus son influence. Donc, eux, ils embauchent. Donc, on se retrouve beaucoup de jeunes, justement, où on ne trouve pas de débouchés. On arrive ici, quoi. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way.
On va parler de la solidarité parce qu'il y a eu de la solidarité autour de votre cas. Mais au quotidien, est-ce que vous aviez le sentiment de vous soutenir entre collègues ?
Alors justement, à ChronoDrive, on est tout le temps mis en concurrence. Que ce soit par justement les statistiques, le fait d'être classé, et même en fait c'est quelque chose dont profite en fait la direction. Parce que le fait qu'on fasse remonter des choses à la direction, le fait qu'on se plaigne les uns des autres, etc., ça divise forcément les salariés. Et au vu de nos conditions qui sont ultra précaires, on a le minimum, enfin on est payé le minimum légal. On a nos temps de pause qui ne sont même pas payés, qui sont au minimum légal pareil, c'est 3 minutes par heure travaillées. Donc quand tu prends ta pause, en fait, quand tu as travaillé 3 heures ou 4 heures, tu as 9 ou 12 minutes de pause, c'est rien du tout, elles ne sont pas payées. Donc vraiment, en fait, on aurait toutes les raisons justement de pouvoir se mobiliser, de dire qu'on en a marre, mais justement, eux, ils essayent perpétuellement en fait, de nous diviser, de fragmenter nos horaires pour qu'on ne se connaisse pas, etc. etc. Donc il n'y avait pas beaucoup de solidarité. Nous, moi, quand je suis arrivée, en fait, donc, la section CGT ChronoDrive venait d'être créée, juste après le premier confinement, après que justement, pendant le premier confinement, la modulation elle a explosé. Donc quand tu travailles, en même temps tu fais tes études et qu'en fait ton travail demande de venir 24 heures par semaine, tu choisis ton travail et pas tes études, quoi, parce que juste tu peux pas cumuler les deux. On n'avait même pas de masque au début quand on est travaillé, c'était les clients qui avaient dû demander à ce qu'on ait les masques. Là enfin ils nous les avaient donnés, le gel hydroalcoolique fallait vraiment le trouver pour en avoir. Enfin c'était même une catastrophe et il y avait justement un peu une colère qui avait émané de ce premier confinement. Il y avait une pétition qui a tourné en fait pour qu'on puisse avoir la prime qui avait été promise par Macron à hauteur de 1000 euros et qui avait été dit que Auchan en fait nous la donnerait, donc nous on la voulait aussi. Et ça, sachant qu'en plus, Auchan s'était fait des milliards pendant le premier confinement, etc., etc., avec toutes ses filiales. Donc très clairement, on la voulait. Et justement, cette pétition-là, elle avait récolté plus de 14 000 signatures. Et beaucoup de collègues l'avaient relayée. Donc moi, je suis arrivée dans l'entreprise juste après ce premier élan un peu de solidarité, mais qui ne s'était pas cristallisé vraiment concrètement, mais en tout cas au travers d'une pétition et d'une colère un peu ressentie par tout le monde. Et donc là, justement, en fait, pour la première fois, On a un peu fait une démonstration de solidarité entre nous. On a un peu rompu justement toute cette politique de la boîte qui essayait de nous mettre en concurrence, de nous diviser. Et ça faisait vraiment, vraiment chaud au cœur, notamment samedi pendant notre première grève, où on leur a montré qu'on n'y croyait plus à tout ce qu'ils voulaient nous faire croquer et que cette fois-là, on allait vraiment se soutenir entre collègues et savoir que nous, on avait les mêmes intérêts en tant que salariés, quoi.
Oui, on va revenir évidemment longuement sur ce qui vous est arrivé et la solidarité qui a suivi. Vous évoquiez tout à l'heure des comportements sexistes, peut-être même du harcèlement sexuel, vous allez nous le dire. Justement, en tant que femme, en particulier en tant que jeune femme, vous l'avez dit, vous avez 19 ans. Comment ça s'est passé de ce côté-là, chez ChronoDrive ?
Ouais, moi quand je suis arrivée, je l'ai direct vu, ce climat sexiste. J'ai jamais vu ça dans un travail, enfin, j'ai fait trois tafs, je crois, dans ma vie pour l'instant. Et vraiment, c'était un sexisme sans limite, quoi, en fait. Il n'y a aucune barrière qui est donnée aux collègues. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a la direction qui voit tout ça, qui est témoin de tout ça, mais qui ne dit jamais rien. On se sent très seul, c'est très couvert sous l'effet de groove, sous la blague. Donc on se sent très très seul. Et en fait, vu que les collègues, en fait, ils n'ont jamais eu un stop, une remarque de la direction, ou même une formation en fait, qui explique c'est quoi le sexisme, c'est quoi le harcèlement sexuel, en fait, t'as un sexisme qui est totalement banalisé, décomplexé, et il n'y a aucun souci. Enfin, moi, on m'a posé les questions les plus indiscrètes qu'on m'ait jamais posées. J'ai eu des collègues, moi, ça ne m'est pas arrivé heureusement, mais j'ai eu des collègues même qui se sont fait toucher en travaillant. Et puis, même, bah, du coup, il y avait même des cas de harcèlement moral, mais aussi sexuel. Et ça, c'était vraiment très, très grave. Et justement, la direction, en fait, ne disait rien là-dessus. Donc, c'était vraiment, en fait, tout était permis, quoi. Et donc moi j'ai eu voilà, beaucoup de propos, beaucoup de journées où je pouvais me sentir mal vraiment à venir travailler, la boule au ventre, où tu passais des sales journées parce que tu sentais que les regards ils étaient sur toi. Très clairement on te disait voilà, que bah, y avait un tel qui était en train de te mater, puis c'était un jeu en fait. C'était un jeu qu'un tel te mate, un tel essaye de te draguer, etc. etc. On te pose des questions de quelle position tu préfères au lit, mais qu'en fait, ça fasse rire tout le monde, mais que toi en fait ça ne te fait pas rire du tout. Et ça, c'était pas juste une fois on t'a posé une question, mais c'est vraiment genre en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc ça, c'était un peu moi ce que j'avais pu vivre. Et puis justement en octobre 2020, donc j'ai une collègue à moi qui vient me voir, et c'était tout bête, mais je l'avais invitée à aimer la page Facebook CGT Chrono Drive. Et donc elle m'envoie un message et me dit « Mais s'il te plaît, dis-moi que tu es syndiquée, j'en peux plus. » Elle était vraiment en totale détresse, hein, je m'en souviens très bien. Et elle me dit « Mais dis-moi que tu es syndiquée, s'il te plaît, parce que ça fait 3 ans. » que je vis du harcèlement sexuel depuis que je suis arrivée dans la boîte, et ça fait 3 ans que la direction elle a rien fait, et ça fait 3 ans que j'en peux plus. La seule chose qu'elle demandait en fait, c'était d'avoir un planning en différé, notamment avec une personne qui l'avait agressée sexuellement en dehors du taf et avec qui elle devait taffer tous les jours. Donc c'était la seule chose qu'elle demandait, et c'était surtout la chose que ne lui accordait pas la direction. La direction lui avait toujours dit que non, elle ne le ferait pas, alors même qu'elle avait déjà été au courant, alors même que cette personne était déjà, donc l'agresseur, était déjà problématique. Il y avait notamment eu une plainte de viol qui a été déposée contre lui, et en plus c'était une salariée aussi qui avait déposé cette plainte-là, et qui avait dû travailler 2 mois à côté de son violeur, qui avait encore une fois alerté la direction en demandant la même chose, simplement que les plannings ne se croisent pas. Et même ça, il ne voulait pas. Donc cette salariée, après avoir travaillé 2 mois à côté de son violeur, bah, elle est partie de l'entreprise, quoi, ce qui est normal. Je ne sais même pas comment elle a fait pour travailler 2 mois avec lui. Et donc encore une fois, là, cette salariée donc, qui avait été agressée par ce salarié-là, était en arrêt maladie depuis 1 mois parce qu'elle n'en pouvait plus de cette entreprise. Et donc lui, on continuait de travailler tranquillement, et puis bah, elle, ça faisait 3 ans qu'elle souffrait et de harcèlement sexuel, et qu'elle devait travailler à côté de son agresseur. Donc c'était vraiment, quand on dit voilà, que la direction a fermé les yeux, c'est sur des cas autant d'une ambiance sexiste, autant de cas beaucoup plus graves, et de salariés qui alertent plusieurs fois la direction, qui vont en pleurs dans le bureau, etc., mais qui n'arrange jamais la situation, quoi.
Et sur ces points notamment, ce sont des choses que vous êtes prête à produire, et des témoignages que vous êtes prête à montrer, hein, parce que je crois que c'est ce que vous aviez dit notamment sur Twitter,
ouais,
que tout ce que vous avanciez était prouvable, en tout cas était présentable, effectivement. Face à ces comportements, c'est à ce moment-là, vous, donc vous le disiez, vous étiez déjà syndiqué, et que vous avez commencé à faire remonter les choses à la direction, c'est ça, que vous avez commencé à en parler.
C'est ça, quand ma collègue est venue me voir du coup, donc qui m'a dit qu'elle était victime de harcèlement sexuel, elle voulait partir de l'entreprise parce qu'elle n'en pouvait plus. Tout ce que lui proposait en fait la direction comme débouché à sa situation, c'était de démissionner. Sauf que bon, elle déjà, elle disait que c'était pas de sa faute, donc elle n'avait pas à démissionner. Mais surtout, en fait, c'était son premier taf, elle est très jeune, elle a 22 ou 23 ans. Si tu démissionnes, tu pars sans rien. Donc t'as le choix soit de vivre à la rue, soit de retourner chez tes parents, enfin c'est juste pas possible, quoi. Et la seule chose qu'elle demandait, encore une fois, c'était une rupture de contrat conventionnel, donc c'est-à-dire de partir avec un peu d'indemnité, un peu de dignité au moins. Et ça, pareil, la direction lui refusait, lui disait non, on fait pas ça, nous, c'est soit tu démissionnes, soit rien. Donc c'était quand même assez violent pour elle, ce qui faisait que justement elle était en arrêt maladie, et qu'elle avait dit une énième fois au directeur du magasin, écoute, soit tu me donnes cette rupture de contrat conventionnel, soit en fait je peux plus revenir dans l'entreprise, là c'est fini. Et donc du coup, nous on a fait tout un accompagnement individuel, on l'a accompagnée dans des entretiens face à la direction, on a monté des dossiers avec elle pour que justement elle puisse avoir cette rupture de contrat conventionnel, ce qu'elle a eu, mais aussi qu'elle puisse avoir entre gros guillemets une réparation un peu du préjudice qu'elle a subi, et donc financier, etc., etc. Et donc ça, c'est encore en cours de préparation, mais voilà, en tout cas aujourd'hui elle est plus dans la boîte, elle a pu partir avec des indemnités, et essayer de se reconstruire un peu en dehors de cette boîte-là. Et puis aussi, de ce cas-là, en fait, a découlé aussi toute une organisation un peu plus collective, puisque, bah voilà, comme je disais, c'est même un climat sexiste dans la boîte, et en fait, on n'est pas du tout seul, contrairement à ce qu'on peut avoir l'impression. Et en fait, du coup, il y a plein d'autres salariés qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bon, moi déjà, je veux soutenir cette salariée-là, mais surtout, en fait, moi aussi, j'en ai marre, et moi aussi, je subis un peu la même chose. Moi aussi, je me suis fait toucher, moi aussi, la personne en question, notamment l'agresseur, avait été problématique avec moi. Et elles étaient témoins, en fait, de tout ça. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé plus collectivement sur notre temps personnel. On s'est organisé, voilà, pendant des soirées, etc. On a fait des réunions qui, déjà, avaient permis, dans un premier temps, de libérer la parole, de pouvoir se rendre compte qu'on n'était pas seul et qu'en fait, c'était toutes les femmes qui subissaient ce genre de comportement. Et puis aussi, surtout, derrière, en fait, de pouvoir avoir des perspectives en fait face à cette situation. On voulait pas juste témoigner de ce qui nous arrivait, mais en fait on voulait surtout relever la tête par rapport à ce sexisme là et surtout en fait se dire que nous on avait des solutions, que nous on voulait les mettre en place, contrairement en fait au silence de la direction qui dure depuis des années. Et que d'ailleurs ce cadre là il était très clair sur le fait qu'on n'avait pas du tout d'illusions en la direction pour résoudre ce problème là pour le prendre en charge, que ça faisait des années qu'il nous méprisait. Moi, mon directeur de magasin, il m'a dit texto dans un entretien dans lequel j'accompagnais justement une salariée victime de harcèlement moral, où il s'était plus adressé à moi qu'à la salariée. Il m'a dit « Tu sais, Rosane, je ne peux pas faire une chose pour chaque main au cul qui est mise dans le magasin. » Donc très clairement, on voit le mépris en fait qu'a la direction pour ces questions de sexisme-là. Donc on n'avait plus du tout d'illusions. On savait que c'était à nous de trouver nos propres solutions et à nous de les mettre en place aussi. C'était des échanges qui étaient très riches et justement, ça a été aussi une démonstration de soutien, de solidarité et d'organisation des femmes.
Vous, Rosane, dès le départ, vous êtes apparue comme l'une des artisanes majeures, on peut dire, de ces organisations de soutien. Aux yeux de la direction, vous avez été l'une des personnes qui défendait les salariés, c'est ça ?
C'est ça, puisque même si moi je suis simple syndiquée, donc j'avais pas de mandat syndical, en fait j'étais souvent mandatée par mon syndicat pour accompagner en fait les salariés lors d'entretiens avec la direction. Donc même une fois qu'on s'était organisé dans ce cadre féministe, qui était impulsé par la CGT Chronodrive, mais qui était ouvert aux non-syndiqués aussi, hein, on avait, nous on voulait visibiliser tout ça, donc même on a fait des campagnes de témoignages, on a fait un hashtag tu n'es pas seul, on a fait des vidéos dans lesquelles aussi je suis apparue, qui appelait en fait toutes nos collègues à rejoindre ce cadre-là. Et vu qu'on voulait vraiment que toutes nos collègues puissent nous entendre, on a fait aussi des tracts, des communiqués dans lesquels on expliquait la situation et dans lesquels on invitait les gens à rejoindre ce cadre-là féministe. Et en fait, très clairement, une fois, il y a les DRH qui ont reçu ce tract-là sur leur bureau, qui sont descendus du siège de Chronodrive, donc qui est à Lille, pour venir nous voir. Et dans lesquelles elles nous disaient qu'elles avaient été alertées avec notre acte, avec tout ce qu'on avait visibilisé, et qu'apparemment, voilà, elles ne connaissaient pas du tout la situation avant, etc., etc. Mais du coup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde de la direction, beaucoup de monde du siège, beaucoup de directeurs, beaucoup de responsables. Et puis, de toute manière, même au-delà de ce truc-là, de cette lutte féministe, j'étais aussi reconnue dans la boîte comme étant la syndiquée avec qui tu peux poser tes questions sur ton bulletin de paye, etc. Et donc, c'était un secret pour personne. Pour moi, on peut totalement prouver même cette discrimination syndicale parce qu'encore une fois, il y a énormément de mails, énormément d'échanges dans lesquels ils savent que je suis syndiquée, ils me le disent et on se le dit en face, quoi.
Un mot sur le féminisme que vous évoquiez justement. Est-ce que c'est un féminisme qui a été largement alimenté par le collectif que vous évoquiez tout à l'heure, du pain et des roses ? Est-ce que c'est une démarche interne à la CGT ?
Moi, je suis arrivée dans l'entreprise, bien sûr, en tant que syndiquée CGT et tout, dès le départ. Mais surtout, ce genre de commission un peu de femmes qu'on a pu impulser au travers de la CGT Chronodrive, c'était déjà une politique de la section CGT Chronodrive, mais surtout des femmes en tant que telles qui l'ont impulsée. Et bien sûr, après, moi, tout ce que je pouvais penser, toutes les élaborations féministes que j'ai, elles viennent de ce collectif du Pain et des Roses qui se dit, c'est un féministe qui se dit lutte de classe. Donc même, en fait, moi, quand je dis que les intérêts en fait, des salariés, ou en fait, nous, on veut juste venir au travail sans se casser le dos, sans se faire toucher le cul, en ayant en fait une bonne rémunération, et que très clairement, en fait, les intérêts de la direction, c'est pas cela. Même concrètement, en fait, moi, aujourd'hui, les intérêts de la direction de Chronodrive, c'est d'avoir des primes de productivité si on va plus vite, c'est de nous payer toujours moins, de gratter toujours des miettes sur notre dos. On l'a vu avec la prime, on le voit avec même le paiement des temps de pause qui sont pas payés, on le voit avec le fait que tout le temps, ils grattent des miettes sur nous. Et qu'ils essayent tout le temps d'être plus productifs, quitte à en pâtir sur notre santé physique et mentale. Donc même tout ce que je pouvais un peu penser déjà au niveau féministe, justement, un féministe qui dit lutte de classe, mais aussi révolutionnaire, etc. Ça, bien sûr, c'était tous les apports du collectif et du fait que je sois dans des organisations qui soient politiques. Après, bien sûr, c'était des élaborations aussi collectives avec les femmes salariées et aussi avec la CGT, bien sûr.
Mes mains sont belles. Elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille. Pour les plombs que j'ai brisés, je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces, il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez pour liche. Pour casser une graine, un café noir et un sandwich. J'ai la mère Eugène, la plante sous l'eau, assommé au comptoir. Il compte les histoires, il compte les goulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Est-ce que à ce moment-là, c'est-à-dire au moment des premières mobilisations, au moment où vous avez commencé à fédérer les énergies justement pour défendre certaines de vos consœurs et peut-être certains de vos confrères d'ailleurs, est-ce que à ce moment-là, quand vous avez été identifié comme l'une des meneuses, on va dire, de ces mouvements-là, est-ce que vous avez reçu des menaces explicites ou implicites de la direction ?
Non, en fait, honnêtement, ça s'est toujours à peu près bien passé avec la direction. Ils faisaient un peu profil bas. Je sais que voilà, justement, le représentant de la section syndicale, lui, par contre, a déjà vécu des altercations un peu, etc. Moi, honnêtement, ça s'est toujours bien passé. Ils essayaient vraiment de pas trop me parler du fait que je sois syndiquée et même de faire un peu profil bas avec moi jusqu'alors. Pour eux, voilà, ils faisaient genre qu'il n'y avait aucun souci, même à ce que j'accompagne n'importe quel salarié et que, voilà, ils étaient même, en tout cas de ce qu'ils me disaient, très contents qu'il y ait une section CGT syndicale.
Donc, officiellement, avant ce fameux tweet, finalement, vous n'aviez jamais été inquiété ?
Non, 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 jamais.
D'accord. On en vient justement à ce tweet. On est à quelle date ?
Ce tweet, c'était le 27 février.
Ce tweet, on l'a évoqué en début d'émission, ce tweet où vous critiquez le greenwashing de ChronoDrive. Vous vous êtes senti presque obligé, c'est ça, par souci d'honnêteté, de répondre à cet affichage ?
Ouais, c'est ça. Et puis, c'était un genre de ras-le-bol, en fait, même qui dépasse, en fait, moi et mon compte Twitter. C'est vraiment un ras-le-bol, en fait, de tous les salariés. C'est un ras-le-bol de premier confinement pressurisé où, en fait, tu dois jeter des... Moi, je me souviens, les collègues, ils me disaient, en fait, tous les matins, on doit jeter des produits. Et, en fait, tellement il y a de gens, tellement la modulation, elle explose, que le soir, on ne peut même pas venir faire nos courses à ChronoDrive parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons. Mais en fait, les magasins, ils sont aussi fermés. Donc en fait, je rentre chez moi, je sors du taf. Et en fait, j'ai rien à manger le soir parce que je peux même pas mâcher les choses. Alors que le matin même, j'ai dû jeter des choses dans la poubelle. C'était un ras-le-bol, voilà, de pas être assez payé. Moi, aujourd'hui, je suis payée 420 euros par mois. Mais en fait, c'est même pas le prix de mon loyer, quoi. Mon loyer, il est encore plus cher que ça. Donc ça a été un ras-le-bol vraiment de voir tout ce gâchis-là. Moi, j'ai dû jeter de la viande, des kilos de viande à la poubelle. Tous les jours, en fait, on a des personnes qui viennent récupérer justement les aliments dans la poubelle. D'ailleurs, la direction les appelle les manouches, alors que c'est pas du tout des manouches. Enfin, c'est aussi un mépris énorme pour eux. Et donc, c'est un ras-le-bol de tout ça, en fait, de la précarité qu'on subit, de nos conditions de travail. Et donc, forcément, oui, c'était un peu aussi dans l'idée de rétablir en fait une vérité, quoi, par rapport à tout ce que peut nous dire ChronoDrive. C'est pareil, ils font plein de pubs sur le fait que il y a autant de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Mais en fait, quand tu regardes la direction, c'est presque que des hommes. Par contre, en livraison, oui, là, il y a beaucoup de femmes, comme de par hasard. Donc voilà, donc oui, c'était un souci vraiment de même lancer l'alerte, justement, sur le gaspillage alimentaire et de rétablir une vérité, oui.
Ce greenwashing, d'ailleurs, on a oublié de le préciser, mais c'est quand on affiche des valeurs soucieuses de l'environnement, de l'écologie, etc., mais qu'en réalité, on ne fait pas exactement ce que l'on revendique faire. Ce choix, justement, de jeter des aliments, ce n'est pas le choix que font tous les grands magasins.
ChronoDrive, ils ont un partenariat avec la Banque Alimentaire, donc une association pareil pour en fait revendre aux plus pauvres des produits que tu pourrais pas vendre à tes clients en temps normal, qui sont un peu cassés, voilà, mais tu peux les revendre en fait aux plus pauvres, quoi. Mais tous les produits ne vont pas du tout dedans. Moi, je sais que par exemple dans mon secteur, tous les produits hygiéniques ne vont pas dans la Banque Alimentaire, même si voilà, ils peuvent encore consommer. Pareil dans le secteur des fruits et légumes. Par exemple, si t'as une grappe de banane ou une grappe de raisin et que t'as un raisin ou une banane qui est abîmée, t'es obligé de jeter tout. Tu peux pas juste enlever et mettre dans la banque alimentaire ou quoi. Donc même moi je me souviens que justement ils ont répondu aux médias concernant cette affaire-là en disant que j'avais attaqué leur lien fort avec la banque alimentaire, etc. etc. Bon déjà moi j'affirme en fait que les produits ne devraient même pas être vendus aux plus pauvres mais devraient être donnés au vu en fait du bénéfice que se fait en fait ces grandes entreprises-là au champ multinational, etc. En fait on a tout à fait même les capacités de donner même des produits en fait que ce soit aux familles pauvres mais aussi aux étudiants qui font en ce moment des heures de queue pour avoir un peu de beurre et un peu de pâte. Donc déjà voilà, et puis en fait non, moi quand je dis que je jette des produits dans la poubelle, c'est que je jette des produits dans la poubelle et pas dans la banque alimentaire. Et que d'ailleurs il y a des témoignages qui sont sortis de collègues à moi, mais aussi des témoignages que j'ai récoltés pour mon dossier juridique qui attestent justement de tout ça, mais aussi de la pression qu'on te met et qui des fois en fait même te force à jeter directement dans la poubelle parce que ça va plus, c'est plus rapide. J'avais une collègue qui témoignait de ça justement dans un média et qui disait voilà, qu'en fait on te met tellement la pression qu'en fait il y a des moments où tu ne peux même plus faire toute la mise en œuvre pour pouvoir mettre un produit dans la banque alimentaire, mais que c'est plus facile de le jeter, et en fait c'est ce que te pousse à faire la direction à la fin, quoi.
Orzen, donc fin février, vous faites ce tweet. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, il ne se passe rien. Je le fais, on ne me dit rien du tout pendant plusieurs semaines. Et le 6 mars, j'arrive au travail. Donc deux jours avant le 8 mars, en plus, c'est assez rigolo. Mais donc, j'arrive au travail.
C'est la journée internationale des droits des femmes.
Et donc, j'arrive au travail. J'ai même pas le temps de dire bonjour à mes collègues, d'arriver dans le secteur, que mon directeur de magasin me prend dans son bureau et me dit que je suis mise à pied. Me dit que c'est pas dû à la qualité de mon travail ou à des faits qui se sont déroulés au sein du travail, mais que c'est dû à ma vie personnelle. Donc je suis assez étonnée et je comprends pas trop. Donc je ressors tout de suite du magasin. J'avais l'impression vraiment d'être virée, quoi, de mon magasin. Tous mes collègues que j'ai pu croiser étaient totalement choqués. Et donc j'attends. J'attends le motif officiel, où j'ai un rendez-vous en fait le 15 mars pour avoir le motif officiel. Rendez-vous qui en plus se passe assez bizarrement puisque normalement c'est notre directeur de magasin qui nous reçoit. Moi j'ai le droit à mon directeur régional et quelqu'un du service juridique du siège de Lille, enfin de Chronodrive donc qui est à Lille. Grand honneur, mais du coup j'étais un peu surprise. Et donc on m'annonce qu'on me reproche un tweet que j'ai fait, qu'on me demande toujours pas de le retirer. Qu'on me dit qu'il est mensonger, qu'on me dit, enfin, on va même jusqu'à l'instrumentaliser en me disant que je dirais que les produits ne sont pas bio, alors que si tout le monde regarde mon tweet, on voit très bien que je ne dis pas ça, que ce n'est pas le propos de mon tweet. Et voilà, on me dit qu'en gros, j'attaque la société, que imaginez, nos clients verraient ça, etc. Donc moi, bien sûr, lors de cet entretien-là, bah, j'ai très clairement dit que déjà, de un, ce n'était pas mon intention de m'adresser aux clients directement, que ce tweet-là n'était pas mensonger du tout, et puis surtout bah, que moi, ça m'étonnait, puisqu'on ne m'avait jamais demandé de le retirer, qu'en fait, le lendemain, si on m'avait convoqué dans le bureau, moi, j'aurais bien voulu parler avec la direction, justement, de ce tweet-là, quoi. Et puis surtout, moi, ce que j'ai bien réaffirmé pendant ce rendez-vous-là, c'est qu'on savait très bien que derrière, en fait, ce n'était pas le tweet le problème, que c'est un prétexte, en fait, pour me dégager de l'entreprise, parce que justement, je suis syndiquée, parce qu'on a relevé la tête avec des collègues contre le sexisme et que ça c'était qu'un prétexte, ce qu'ils ont nié directement en disant qu'ils ne savaient même pas que j'étais syndiquée, alors que c'est extrêmement faux. Voilà, c'est remonté jusqu'au siège, j'ai rencontré des personnes du siège, donc ils savent très bien, quoi.
Et juridiquement, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on vous reproche? Un manque de loyauté vis-à-vis de votre employeur?
C'est ça, en fait, au travers de ce tweet, on me reproche plusieurs choses. On me reproche un abus de ma liberté d'expression. On me reproche que j'ai tenu des propos insultants parce que j'ai dit les mythos, pour dire Chronodrive. On me reproche que j'ai pas respecté en fait mon devoir de loyauté envers l'entreprise. Et il y a quelque chose d'autre, je crois que c'est genre tweet mensonger ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est ça qu'on me reproche officiellement. Moi, je savais même pas qu'on pouvait abuser de notre liberté d'expression. Moi, je me considère plus comme une lanceuse d'alerte, mais bon, chacun sa vision, quoi.
Et sur cette question de la loyauté, qu'est-ce que vous leur avez répondu à Chronodrive ?
Bah pour l'instant, rien, parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. Après, moi, ce que je pense, c'est que je vois pas trop ce devoir de loyauté-là, que pour moi, c'est plus une critique que j'ai fait. Pour moi, la loyauté, elle est plus légitime quand, en fait, il y a du harcèlement sexuel, quand on te précarise, quand on te casse le dos. Moi, à 18 ans, je faisais des arrêts maladie, j'étais pire que ma grand-mère parce que j'avais le dos pété en deux. C'est une critique qu'on fait, et si on n'a plus le droit de critiquer, de revendiquer, de vouloir améliorer ses conditions de travail, c'est quand même grave. Et j'appelle pas ça juste un devoir de loyauté envers mon entreprise.
À ce moment-là, vous êtes mise à pied, vous l'avez dit, et tout récemment, il y a quelques jours, vous avez appris que vous étiez licenciée. Comment on a justifié ce licenciement ?
Ce licenciement, on me l'a donc notifié par recommandé pour faute grave. donc avec toutes les notifications, donc abus de ma liberté d'expression, devoir de loyauté, etc. Et donc, faute grave, c'est assez fou. Et on m'a juste simplement dit voilà, que ce tweet-là, il dénigrait l'image d'entreprise, qu'il attaquait le partenariat avec la banque alimentaire, et que c'était grave et que j'avais pas le droit de le faire. Et donc, simplement qu'on me licencie.
Avant de revenir sur la solidarité qui s'est manifestée à ce moment-là, aujourd'hui, vous allez évidemment contester ce licenciement. Quel est le calendrier à venir ?
Déjà, moi, je vais pas me laisser faire par rapport à tout ce licenciement. Et nous, ce qu'on prévoit, c'est d'aller au prud'homme, de toute manière. Donc, on va essayer d'avoir une mesure qui s'appelle d'urgence, donc qui pourrait se faire en 1 ou 2 mois, ce qui serait le mieux. Et puis, de toute manière, on ira les attaquer en justice de toute manière. Donc, ça sera en tout cas sous quelques mois, là, que ça va être réglé, cette histoire.
Vous voudriez être réintégré à l'entreprise ou en partir avec des indemnités conséquentes ?
Non, bien sûr, moi, je vais être réintégré à l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai eu 20 jours de mise à pied, quand même, avant d'avoir mon motif. Donc, j'ai eu 20 jours où je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais faire pour payer mon loyer. J'ai eu 20 jours où je me suis posé la question aussi de où est-ce que j'allais aller. Et voilà, en période de crise économique, je sais pas où est-ce que je vais aller. Quand les bars et les restos ils sont fermés, quand les boutiques de fringues elles embauchent plus, quand t'es étudiant, t'as pas grand-chose, quoi. Et justement, au vu de la solidarité qu'a pu émaner, au vu de la section CGT Chronodrive qui, justement, prend aussi en charge toutes ces questions féministes, mais aussi écologiques, aussi antiracistes, et des autres discriminations, et puis aussi nos conditions de travail précaires. Moi, c'est en fait la seule chose qui a pu m'épanouir un peu dans l'entreprise, c'est d'aider mes collègues, c'est de ne pas laisser les femmes en fait dans cette situation horrible de sexisme, et c'est justement de pouvoir combattre un peu en solidarité et en soutien avec mes collègues. C'est pas non plus pour aller au carrefour du coin, où il n'y aura pas ça. Et moi, en fait, justement, ça a encore plus renforcé en fait, nos liens avec mes collègues, toute cette lutte contre mon licenciement. Et donc je vais encore plus revenir dans l'entreprise encore maintenant, quoi.
Oui, parce que vous le disiez, quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas vraiment de solidarité. En tout cas, vous n'en avez pas constaté énormément. Petit à petit, il y a des liens qui se sont tissés. Et puis, au moment de votre mise à pied et de votre licenciement, là, il y a beaucoup de salariés qui se sont mobilisés. Vous le disiez, c'est quelque chose d'assez inédit, hein, parce que c'est vrai que quand on a des contrats précaires, en général, c'est compliqué de mener une action collective. En tout cas, là, il y a eu une vraie solidarité. Mmh. Comment elle s'est manifestée, Rosane ?
Et bien justement, en fait, il y a 2 mois, moi, je ne pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir une grève à Chronodrive. En fait, il n'y a jamais une grève à Chronodrive. Même, en fait, avant, il n'y avait pas de syndicat réellement combatif avant le premier confinement, avant la CGT Chronodrive. On avait en fait que la CFDT et la CFTC, mais qui en fait étaient des membres de la direction directement, qui voulaient s'impliquer un peu dans l'entreprise, négocier des chèques vacances, et puis voilà, tu participes un peu à la vie de l'entreprise pour pouvoir monter encore plus dans les gestions. Donc très clairement, la CGT Chronodrive, c'était pas ça. C'était des salariés en temps partiel, des salariés 35 heures, qui en fait voulaient juste arrêter de se casser le dos et être payés mieux. Très clairement, en fait, c'était même une perspective d'organisation qu'on avait essayé de donner au travers de la CGT Chronodrive, et il n'y avait jamais eu vraiment d'élan de solidarité, à part un peu la pétition, mais qui ne s'était pas cristallisée concrètement. Et voilà, ce qu'on avait pu faire, un peu quelques réunions au travers de la CGT Chronodrive, mais pas de comme on a pu faire samedi. Et donc, même moi, quand on m'a dit on va essayer de lancer une grève contre ton licenciement, j'y croyais pas du tout, justement, avec toute cette politique de diviser les salariés, que moi je connaisse peut-être un tiers de mon magasin et encore. Et en fait, cette grève, elle a pu se tenir. C'était la première grève de Chronodrive. C'était la première grève de mes collègues, en fait, qui se sont mis en grève pour la première fois, qui ont 18, 22 ans, qui ne savaient même pas ce que c'était que faire grève, qui ne savaient même pas comment est-ce qu'on pouvait le faire. Donc c'était vraiment, vraiment beau, quoi, de voir qu'on était 24 grévistes de différents magasins. Moi, toute cette médiation aussi de mon licenciement, ça nous a permis de rentrer en contact avec des gens aussi de Tours, de Lille, de Bordeaux, de Montpellier, qui sont aussi chauds de nous rejoindre et de se mettre en soutien aussi avec nous. Et donc de voir toute cette solidarité-là qui a émané pour la première fois à Chronodrive, ça faisait vraiment chaud au cœur. Et c'était en ça que c'était aussi une grosse démonstration vis-à-vis de la direction qu'on a pu faire ce samedi. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight.
should know better.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, notamment du côté de cette solidarité, puisqu'il y a eu cette grève et même cette manifestation donc samedi 27 mars. Quelles vont être les actions maintenant à venir?
Ouais, c'est ça. Du coup, cette solidarité, elle est à la fois interne et externe, puisque pendant des semaines déjà, il y a eu une pétition contre mon licenciement qui a récolté plus de 20 000 signatures. Il y a une caisse de grève aussi qu'on a montée qui a récolté en quelques jours plus de 3 000 euros. Et c'est ce qui nous a permis justement de faire aussi cette solidarité interne, de pouvoir en fait que des étudiants qui sont travailleurs, qui sont précaires, en fait, ils puissent se mobiliser et donc du coup ne pas perdre de salaire, sinon ça n'aurait pas été possible. Et donc c'est en ça que justement aujourd'hui, grâce à tout le soutien qu'on a à l'extérieur, en fait on peut voir aussi des perspectives à l'intérieur. Et donc nous on est déjà, tous les collègues ils sont super contents de la journée de samedi, qu'il y a eu presque 200 personnes qui soient rassemblées devant le magasin en soutien face à la répression et en soutien de mes collègues. Donc ça les a énormément touchés, énormément impactés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on pense des perspectives, on se réunit avec les collègues là déjà et on essaye justement de militer. On a sorti une lettre des 24 grévistes qui parle aux gens qui n'ont pas été grévistes et qui leur dit voilà, rejoignez-nous, parce qu'on a fait samedi, c'est une démonstration de solidarité, de force, et la grève c'est notre force en tant que salarié, c'est quand en fait on montre au patron que c'est nous qui faisons tourner le magasin et que si on arrête de travailler, il peut plus rien faire, donc c'est pour ça qu'il doit nous traiter sans mépris et ne pas nous réprimer. Donc c'est en ça que là aujourd'hui, voilà, les collègues ils sont super chauds. Moi ils m'ont dit mais samedi on fait pas grève. Je leur ai dit non, pas ce samedi là, mais t'inquiète pas, il y aura d'autres journées de grève, etc. Donc voilà, donc on se réunit, on parle des perspectives, tout le monde a plein d'idées et donc il y a des prochaines dates qu'on est déjà en train de penser et qui vont très vite arriver là.
Rosane, si vous obtenez gain de cause, vous voyez revenir dans cette entreprise? Vous pensez pas que les relations vont être trop compliquées, notamment avec la direction?
Non, moi je pense que justement, si je reviens dans l'entreprise, ça montrera, parce qu'en fait, le message qu'on est en train d'envoyer ChronoDrive, c'est quoi? Le message qu'on est en train d'envoyer ChronoDrive à tous les salariés de ChronoDrive, c'est si t'as envie de relever la tête face à tes conditions de travail précaires, si t'as envie de relever la tête face au sexisme, nous, il n'y a pas de souci, on va te réprimer, on va te faire baisser la tête, et puis si tu veux toujours pas te taire, et on va te licencier. Et c'est ça en fait qu'ils sont en train d'envoyer. Et moi je suis totalement contre ce message-là, tous mes collègues grévistes sont contre ce message-là, et donc en fait, revenir dans l'entreprise, gagner gain de cause, ça voudrait dire que vous pouvez pas faire comme vous voulez avec nos vies, nous prendre pour des torchons que vous modulez comme vous voulez, puis après vous nous jeter si vous avez pas envie de nous, si vous voulez vous débarrasser de nous. Donc ça serait une énorme démonstration vis-à-vis de la direction et vis-à-vis des collègues de dire regardez, il y a une issue en fait à tout le mépris que nous donne le patron, et à notre patron ça voudrait lui dire aussi que tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et le temps où voilà tu nous faisais baisser la tête, c'est fini. Et maintenant, on va s'organiser, on va relever la tête collectivement et on va plus laisser faire. Et tu peux plus en faire à ta guise, quoi. Donc non, justement, moi, ça serait une énorme fierté, justement, de revenir dans l'entreprise.
Et pour vous, votre lutte, elle va bien au-delà de ChronoDrive. Elle rejoint aussi la lutte des salariés de McDonald's. Mmh. Elle rejoint la lutte des étudiantes de Sciences Po, c'est ça?
C'est ça, bien sûr. Moi, j'étais justement le 8 mars, je suis montée à Paris pour une conférence de presse dans lesquelles, en fait, il y avait plein de femmes du secteur du commerce, notamment. Il y avait, voilà, des caissières, des Monoprix, les Ibis Batignolles aussi. Il y avait, voilà, du McDonald's, même des hôtesses d'accueil qui, en fait, témoignaient toutes de la même chose, d'un mépris énorme, d'une reconnaissance, zéro reconnaissance, notamment par rapport au premier confinement qui a exacerbé, voilà, toute cette deuxième ligne, en fait, qui sont principalement féminines, même cette première ligne aussi qui est féminine et qui n'a toujours pas de reconnaissance, d'ailleurs. Mais en fait, on voyait très bien que c'était pas juste à ChronoDrive ou à Auchan, mais qu'en fait, c'était dans toutes les boîtes du commerce qu'il y avait, pareil, du sexisme, de la précarité, du mépris, mais aussi, en fait, que c'était bien au-delà, enfin... En fait, le message est en train d'envoyer aussi ChronoDrive, ce que je disais par rapport à l'intérieur de l'entreprise. C'est en fait aussi un message qui est plus large, qui dépasse les portes de ChronoDrive et qui veut dire que autant dans les boîtes, mais aussi dans les facs où on a pu voir les hashtags justement de Sciences Po, même au foyer en fait, où on a pu voir justement le MeToo inceste, mais aussi le MeToo gay, etc. En fait, c'est en train d'envoyer un message de les femmes qui veulent relever la tête face au sexisme, se défendre, s'organiser, en fait, elles vont perdre parce que nous, on a le pouvoir. Et que c'est horrible en fait ce message-là, et que c'est pour ça aussi je pense qu'il y a eu autant de solidarité autour de mon cas, et aussi où il y a eu des organisations féministes qui ont signé la pétition, qu'elle a été autant militée, c'est parce que justement c'est pas juste le combat de moi, ma réintégration, mais en fait c'est le combat de la lutte féministe, de la dignité en tant que femme, et le fait de relever la tête et d'être solidaire avec les femmes qui relèvent la tête aujourd'hui. Cette solidarité et toutes ces organisations aussi qui se sont joints à cette lutte, ça montre que voilà, que c'est bien au-delà de ça, que c'est un message qui est en train d'envoyer ChronoDrive, qui est bien au-delà des portes de Chronodrive, mais qui veillent dans nos facs, dans nos foyers, dans la rue, et d'un combat en fait de toutes les femmes qui ne veulent plus baisser la tête. On a pu le voir voilà, avec tous les hashtags, qu'aujourd'hui il y a une dénonciation réelle. On l'a vu aussi très récemment avec Canal Plus Group qui a censuré les journalistes. En fait, on voit qu'il y a une dénonciation en fait, des femmes aujourd'hui qui relèvent la tête, et cette dénonciation ne doit plus être silenciée du tout. Quoi. Donc c'est un message aussi que nous on veut apporter, de dire on ne nous silenciera plus. Moi je disais la dernière fois au rassemblement, voilà, aujourd'hui on va se lever, on va se battre. Et c'est ça en fait aujourd'hui qu'on veut envoyer aussi comme message aux femmes.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui la société est prête à vous entendre ?
Oui, moi j'ai l'impression justement quand on voit toute cette vague de dénonciations, quand on voit en fait aujourd'hui que même en tant que jeune, on n'a plus vraiment d'autre choix en fait que de relever la tête et de s'organiser et de se battre. On est tout le temps précarisé. Le Covid aujourd'hui, ça fait plus d'un an. Et en fait, Macron, il nous apporte toujours pas de réponse. Marlène Schiappa, elle nous apporte toujours pas de réponse face au sexisme. Et même par rapport à la précarité étudiante, en fait, c'est ni un numéro vert, ni un euro au CROUS qui va nous aider. En fait, on voit qu'en tant que jeune, que ce soit sur la précarité en général et sur la question des femmes, même sur la question de l'écologie, en fait, c'est pas non plus les grands groupes capitalistes comme Auchan qui vont nous aider pour résoudre la crise écologique d'ampleur qu'on peut connaître. Donc très clairement, aujourd'hui, en fait, on voit qu'on a plus d'autre choix en fait que de s'organiser et que de lutter contre tout ça. C'est super important aussi qu'aujourd'hui il y a eu autant de médias qui aient relayé cette affaire, que je puisse prendre la parole, parce qu'en fait je voudrais que tout le monde aujourd'hui puisse prendre la parole justement. Je voudrais que toutes les femmes puissent prendre la parole, que tous les jeunes puissent prendre la parole, et surtout envoyer un message clair aux gens que voilà, aujourd'hui il faut qu'on s'organise très clairement, il faut qu'on s'organise dans des collectifs féministes, il faut qu'on s'organise dans un parti qui puisse aussi nous donner justement toute cette organisation politique, qui prenne autant la dimension de notre travail, de notre fac, de la rue, qui prenne en fait toute la dimension même d'un système entier qui est patriarcal aujourd'hui et qui continue tout le temps à nous précariser, à ne pas nous donner de réponse face au Covid, et qui du coup aujourd'hui on a plus d'autre choix que de lutter et contre tout, même cette logique en fait là.
Aujourd'hui, vous, Rosen, vous êtes finalement au carrefour de nombreuses luttes, à la fois celles des étudiants précaires qui doivent travailler en plus de leurs études. Il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui que dans les générations précédentes qui doivent le faire. Vous êtes aussi dans cette lutte des travailleurs précaires qui doivent lutter pour leur dignité. Et puis, vous êtes dans la lutte des femmes pour qu'elles soient respectées dans leur environnement professionnel notamment. Vous êtes un peu au carrefour de toutes ces luttes. Pour une jeune femme qui débute dans la vie active, on se dit ça fait beaucoup. Est-ce que vous, ça vous décourage de voir tout ça ?
Pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, toute cette lutte contre mon licenciement, elle a réuni justement des organisations syndicales, politiques, féministes, même écolos, etc., qui ont apporté leur soutien et qui se sont alliés justement contre ce licenciement-là. Et déjà, moi, je trouve que c'est une très belle démonstration, une très belle preuve qu'on peut s'entendre entre nous et que justement, on voit peu en fait le mouvement même féministe et syndical défiler ensemble le 8 mars ou faire des alliances. Et que justement, moi, je suis très fière en fait que toutes ces associations, toutes ces organisations-là, elles soient venues en fait en solidarité avec moi, que justement en fait ça montre que les syndicats en fait doivent prendre la question féministe en question. Enfin moi par exemple je sais que voilà le 8 mars, moi je défile en tant que Chronodrive, en tant que travailleuse, en tant qu'étudiante et pas simplement en tant que femme, et que en fait le combat féministe il se poursuit autant dans la rue que dans mon travail, que dans ma fac. Donc oui, pour moi, c'était très important déjà toute cette alliance-là. Donc non, justement, pour moi, ça ne me décourage pas du tout, parce que toute cette alliance-là, elle est très belle et je pense qu'elle est forte et qu'elle peut soulever des montagnes. Et puis surtout, je vois qu'en fait, ça offre énormément de perspectives aujourd'hui à nous en tant que jeunes. Et que pour moi, justement, faut qu'en fait, cette alliance-là, elle perdure et qu'elle ne se limite pas simplement à mon licenciement. Mais qu'en fait elle soit en fait même pour toutes les femmes aujourd'hui qui se font réprimer, et surtout que voilà, on puisse sortir, on puisse faire un 8 mars en fait ensemble, enfin on puisse justement faire une journée pour le climat, mais en même temps une journée pour les femmes, et qu'on puisse justement tous sortir ensemble, parce que c'est toutes ces questions, qu'elles soient écolo, féministe, syndicale, politique, en fait à la fin j'ai l'impression que ça recoupe la même chose quoi. C'est toute une logique aussi du système qui essaye en fait tout le temps de précariser les plus pauvres. Comme tu l'as dit, en fait, on est 1/2 en tant qu'étudiant à devoir travailler, 1/3 de jeunes qui ont perdu leur taf pendant le premier confinement. Et en fait, il y a eu même 1 million de pauvres en plus pendant le premier confinement. C'est énorme. Et aujourd'hui, en fait, on a pas d'aide. Et c'est aussi cette précarité, en fait, qui est aussi le terreau aux violences sexistes et sexuelles. Et en fait, toutes ces questions-là, je pense qu'elles se recoupent et qu'il faut justement lutter tous ensemble. Et c'est pour ça que moi, je suis dans un syndicat qui prend justement ces questions féministes en cause, mais aussi la question écologique, aussi la question de l'antiracisme. C'est pour ça que justement, je suis dans un parti qui prend aussi toutes ces dimensions-là en compte. Et je pense que justement, c'est un exemple de la lutte. En tout cas, là, toute cette alliance, c'est quelque chose qu'il faut encore plus diversifier, quoi.
Rosane, ce sera ma dernière question. Vous avez un discours très engagé, très politique, très syndical, on l'a compris. Très construit, très posé. Jusqu'où vous imaginez que cet engagement puisse vous mener ?
La dernière fois, je faisais un live avec Révolution Permanente, dans lequel le live s'intitulait « La nouvelle génération ouvrière ». On était des jeunes, je crois qu'il y avait une personne de l'Infrapol qui a 25 ans, moi j'ai 19 ans, et il y avait quelqu'un de Biocop aussi qui avait fait une grève et qui s'était fait réprimer, et je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Et en fait, on voyait bien que déjà toute cette jeunesse, justement, elle n'avait pas d'autre choix en fait que de lutter aujourd'hui pour ne serait-ce qu'un peu de dignité, ne serait-ce que contre le mépris de nos directions, que ce soit en fait des facs qui ferment les yeux sur les violences sexistes et sexuelles et la précarité étudiante, ou alors de nos directions qui ferment les yeux sur le fait qu'on se casse le dos pour une misère. Et donc aujourd'hui, voilà, on n'avait pas d'autre choix en fait de lutter, de s'organiser, etc. Et surtout, en fait, on voyait que même... moi, je pense pas que c'est, par exemple, si Macron demain me... Aujourd'hui, il promet encore. En tout cas, il commence à annoncer une prime de 2000 euros, par exemple, pour le Covid. Bon, déjà, au vu de la première expérience avec la prime de 2000 euros, moi, je sais qu'à Chronodrive, je pense pas qu'on l'aura, ou en tout cas pas entièrement, comme on a pu l'avoir la première au rabais. En fait, en tant que jeune, j'ai 19 ans, je veux plus demander des miettes au gouvernement, ni demander des miettes à ma fac ou à mon patron. Par exemple, nous, dans le collectif Le Point Levé, donc le collectif étudiant, on dit que déjà, en tant qu'étudiant, on devrait avoir un salaire étudiant et que les licenciements, ils devraient être interdits. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse me licencier alors qu'au champ, en fait, il fait des milliards. C'est pas normal que, par exemple, toutes les entreprises aient plein d'aides, en fait, de la part de l'État, mais qu'elles continuent à licencier. Et qu'en fait, si Macron, aujourd'hui, il interdit pas les licenciements et qu'il, justement, il accepte, en fait, aussi des licenciements qui sont abusifs comme les miens, ou en fait, qu'il y ait un million de personnes qui soient sous le seuil de pauvreté après le premier confinement, c'est aussi parce que, justement, en fait, les capitalistes et le gouvernement français, aujourd'hui, ils sont main dans la main. Et que moi, aujourd'hui, du coup, j'ai plus aucune illusion, en fait, dans un gouvernement qui est comme ça. Aujourd'hui, on a la nouvelle génération qui s'est politisée avec l'écologie, qui s'est politisée aussi avec George Floyd, contre le racisme, mais aussi contre l'impérialisme, etc. Moi, je le vois là en ce moment à Auchan. Enfin, justement, en fait, il y a plein de Auchan qui sont caillassés, notamment au Sahel, etc. Et je le vois qu'en fait, tous ces grands groupes impérialistes, ils font en fait la misère et ils ruinent aussi les agriculteurs, notamment par exemple dans les autres pays. Et nous, je pense qu'on est justement cette génération-là, ces nouveaux ouvriers-là, qui incarnons justement toute une génération qui est très politisée et qui en fait ne veut plus de toutes les miettes qu'on essaye de nous donner, des primes qu'on nous donne, mais en fait au rabais, comme on a pu connaître à Chronodrive pendant le premier confinement. Là, on nous promet encore voilà, de 2000 euros, mais en fait, on sait qu'on ne l'aura pas entièrement. Moi, j'ai encore eu une baisse des APL. Enfin, en fait, en tant que jeune, on est constamment attaqué. Le mouvement féministe, en fait, il revendique depuis des années des choses et Marlène Schiappa, en fait, elle ne nous donne rien. Donc, je pense que moi, j'y crois plus dans tous ces beaux parleurs et dans les annonces de Macron à 20h, etc. J'y crois plus du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, en fait, les personnes qui pourront vraiment résoudre le problème de l'écologie, c'est pas les Muliez, les patrons d'Auchan, mais en fait, justement, c'est les salariés eux-mêmes de ces grandes boîtes-là qui pourront choisir, en fait, de comment, en fait, on peut produire. Je sais pas, par exemple, il y a l'exemple de la grève de Grandpuy qui ont fait plus de 2 mois de grève où, justement, en fait, c'était des raffineurs. Donc une entreprise voilà, qui normalement pollue en soi, mais des raffineurs en fait qui ont dit non au licenciement par lequel ils étaient menacés, mais qui disaient surtout qu'eux, ils n'étaient pas pour polluer comme ça, c'était pas un plaisir de polluer, et qu'en fait c'était surtout pourquoi est-ce qu'eux, ils devaient polluer, c'était parce qu'ils étaient obligés de travailler. Mais qu'en fait, par contre, eux, ils seraient très contents justement de ne pas polluer, parce qu'en plus, les personnes qui vont subir le plus la crise climatique, bah, c'est nous en fait. C'est pas les grands riches qui pourront déménager autant qu'ils veulent, qui pourront s'acheter justement des beaux endroits, mais c'est plutôt justement les salariés, les 90% des Français, j'ai envie de dire. Donc très clairement, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur la question aussi des féministes, écologiques, antiracistes, c'est justement en fait tous ces jeunes mais aussi tous ces travailleurs en fait, de base qui vont pouvoir reprendre en main ces questions-là, qui vont pouvoir surtout impulser de réels changements, parce que c'est dans leurs intérêts justement de ne pas avoir les eaux qui sont polluées, de ne pas avoir l'air qui est pollué, de ne pas vivre du sexisme quand tu es une femme, et de ne pas vivre en fait, des violences sexistes et sexuelles tous les jours, de ne pas avoir des différences de salaire avec en fait, tes collègues hommes, simplement parce que ton patron il a décidé. Et donc justement, en fait, j'ai l'impression que... Aujourd'hui, voilà, il faut que justement tous les travailleurs en fait, ils reprennent en main ces questions-là, qu'on n'ait plus d'illusions dans un gouvernement, dans nos patrons ou quoi, et que justement, nous, il y a un article qui est sorti sur Révolution Permanente il n'y a pas longtemps, qui disait justement que nous, en fait, on était pour un parti des travailleurs qui soit révolutionnaire, et c'est tout ce que je dis là, quoi, justement, des travailleurs vraiment qui n'en veulent plus de ce gouvernement-là et qui sont conscients qu'il faut changer ce système.
Pour vous, lutte des classes et féminisme, c'est intimement lié?
Bien sûr, bien sûr. Moi, et notamment, ça m'a fait chaud au cœur parce que la grève qu'on a fait samedi 27 à Chronodrive, c'était une grève qui était féministe, complètement, qui était contre justement le fait que les femmes elles baissent la tête, contre la répression justement de ces féministes-là. Et pourtant, il y avait plus de collègues hommes que femmes. Mais c'était pas quelque chose de négatif du tout. C'était justement... Nous, ce qu'on dit au collectif féministe du Pain et des Roses, et ce qu'on a milité aussi à l'intérieur de la CGT Chronodrive, c'était de dire que la question du sexisme qu'on subissait en tant que femme au travail, c'était surtout la question de nos conditions de travail et de comment est-ce qu'on était perçu dans l'entreprise. C'était encore une fois le mépris de nos directions, etc. Et qu'en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était que quand on se réunissait entre femmes contre le sexisme, ensuite on rejoignait en fait des réunions aussi de la CGT Chronodrive. Et en fait, justement, on faisait des retours sur ces discussions-là. On la liait, en fait, à la lutte pour nos conditions de travail en général. Et aujourd'hui, moi, tous mes collègues, ils tiennent ce discours-là, en fait. Tous mes collègues, ils nous disent qu'en fait, le sexisme, c'est une condition de travail, en fait, horriblement dégradée. Enfin, on subit ça en tant que femme, et que ça fait partie de nos conditions de travail. Et qu'en fait, le sexisme, on va pas le... Enfin, moi, aujourd'hui, la femme qui me licencie, c'est justement une femme. Et c'est pas avec elle, en fait, que je vais résoudre la question du sexisme. Mais c'est plutôt avec mes collègues hommes et femmes... que je vais résoudre justement la question de nous-mêmes, en fait, avoir des conditions de travail qui nous vont, savoir en fait si le salaire qu'on a, en fait, ça nous sert en fait pour payer notre loyer et notre bouffe, savoir en fait c'est quoi la réalité de nos conditions de travail, et pour qu'en fait ça nous aille à nous, la majorité en fait d'entreprises, ceux qui font tourner les entreprises, et ça sera pas avec même les femmes capitalistes, mais ça sera justement avec nos collègues, ceux qui ont le même intérêt que nous, quoi.
Merci beaucoup, Rosane Kevel, d'avoir été au micro si longuement de Podcasting.
Merci à toi.
C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.